Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Avant de toucher vos premiers droits d'auteur, vous avez vécu dans un univers où l'on se préoccupe essentiellement de droits d'auteur. Vous avez été sacrée papesse de la littérature sans la moindre fumée blanche, bien que vos livres fassent systématiquement un tabac. Publier un roman qui, comme les précédents, est en train de devenir aussi populaire que les expressions dont vous faites les titres de vos chapitres. Bonjour, Aurélie Vaillogne.
Bonjour.
C'est vrai que vous avez un immense succès avec vos romans depuis 5 ans. Le nouveau, La cerise sur le gâteau chez Mazarine, on va en parler tranquillement tout à l'heure. Mais vous êtes un cas à part dans la littérature populaire. Il serait intéressant de revenir sur votre parcours à travers des dates clés, ce que nous allons faire comme tous les jours. La première date ne vous concerne pas directement, mais elle est intéressante et importante dans votre carrière. C'est le 25 octobre 1984. Ce jour-là sort en France un roman adapté de l'allemand qui s'appelle « L'histoire sans fin ».
Ah oui.
Et c'est vrai que c'est important pour vous.
C'est très important pour moi parce que c'est effectivement la première histoire que je vais lire. C'est le livre que je lis à 6 ans, quand je viens juste d'apprendre à déchiffrer les syllabes. Et c'est ma grand-mère à qui je demande de me l'offrir. Et elle m'a dit, mais je ne peux pas t'offrir ça, tu n'as que 6 ans, tu ne vas pas y arriver, c'est trop épais, trop gros. Et L'Histoire sans fin a donc été le premier livre que j'ai donc lu avant la fin du CP. C'est ma grande première histoire.
Oui, et d'ailleurs, vous avez envoyé une carte postale à votre grand-mère.
Tout à fait. Et effectivement, après, une fois le livre terminé, j'ai écrit une carte postale à ma grand-mère en lui disant « Ça y est, mémé, je sais, quand je serai grande, je veux être écrivain ».
Alors, ce livre, L'Histoire sans fin, c'est un roman classique pour la jeunesse. Ça a été écrit par un Allemand, Michael Ende, en 79. Je crois que c'est l'histoire d'un garçon qui vole un livre dans une librairie et puis le livre va prendre corps en lui, c'est ça?
Exactement. En fait, je crois que ce personnage, ce jeune homme, m'a vraiment touchée parce que ma vie se résumait déjà à l'époque à parcourir les livres. Je ne savais pas encore les lire, mais je savais regarder les images, je voyageais à travers les livres. Et ce petit bonhomme qui rentre dans une librairie et honteusement cache un livre, s'en va et va se cacher pour voyager avec cette histoire, je trouvais que c'était extraordinaire.
Et le livre est sorti en France parce qu'on sortait le film en même temps.
Oui.
Un film d'ailleurs qui a été considéré par l'auteur comme mauvais. Il a refusé d'être crédité au générique. C'est le film le plus cher de l'histoire en Allemagne.
D'accord.
Et si ce film n'était pas sorti, le livre serait jamais sorti.
Merci.
Voilà. Et puis maintenant, on va parler de vous bien avant ce livre. Vous êtes né à Châtenay-Malabry et vous avez grandi dans une ville que Renaud a chanté.
C'est le tango de Massy par les eaux.
Connaissez cette chanson?
Je dois avouer que je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas et ça ne m'étonne pas que Renaud l'ait chantée parce que j'adore Renaud, il me touche au cœur à chaque fois par ses phrases.
Oui. Alors Massy-Palaiseau, c'est là où vous avez grandi?
Oui, tout à fait. En fait, c'est deux villes séparées. Il y a Massy d'un côté et Palaiseau de l'autre. Moi, j'ai grandi à Massy et j'ai passé jusqu'à mes 18 ans dans cette ville.
Parce que vos parents étaient travaillaient là-bas. Je crois que votre père était peintre automobile.
Oui.
Et votre mère travaillait dans une maternelle.
Exactement. Ma maman, elle est ATSEM, donc c'est la dame qui aide les maîtresses en maternelle. Et mon père, peintre automobile. Et on y a passé toute notre enfance.
Et Massy-Palaiseau, d'ailleurs, existe aussi. C'est là où se déroule l'action de SOS Météor. Une bande dessinée de Black et Mortimer que vous connaissez peut-être.
Oui.
Et ça se passe aussi à la gare de Massy-Palaiseau. Alors, ces parents, ils ont une particularité, ils n'ont pas été très longtemps à l'école et ça leur a donné envie de que vous fassiez de belles études, Aurélie Vaillogne.
Tout à fait. Eux, ils ont arrêté tous les deux l'école au collège, en 5e, où ils ont bifurqué vers des études, je dirais, plus professionnelles. Donc, mon papa a, je crois, fait un CAP mécanicien ou quelque chose comme ça. Et ma maman, CAP esthéticienne. Donc, puis finalement, elle s'est réorientée vers la garde d'enfants.
Et puis donc, ils voulaient que vous fassiez des études et vous avez fait de longues études.
Oui, c'était un peu leur grande fierté de se dire, l'école fonctionne bien pour notre fille, hors de question qu'elle arrête. Donc moi, quand je leur avais commencé à leur dire, quand je serai grande, je vais être écrivain, ils m'ont regardé avec des grands yeux en disant, mais pas question, écrivain, on ne sait pas comment payer son loyer, c'est vraiment trop compliqué de pouvoir avoir un avenir stable. Et ils ont eu raison, je pense, de me pousser jusqu'au baccalauréat. Et puis après, effectivement, quand on prend le goût de la l'apprentissage, des découvertes, j'ai eu aussi, moi, cette envie très, très forte de continuer et d'aller toujours plus loin.
Oui, mais au départ, vous avez hésité, Aurélie Valogne, à faire des études littéraires.
Tout à fait. Mais vous savez beaucoup de choses. C'est dingue. Oui, c'est vrai que mon cœur voulait absolument faire des études littéraires. J'étais passionnée, voilà, donc, de livres, de philosophie. J'avais qu'une envie, c'est d'approfondir, de faire une cagne, une hypocagne. Mais j'hésitais encore pour mon avenir. Je ne savais pas quel métier exactement je voulais faire. J'hésitais notamment avec publicitaire. J'aimais l'idée de travailler sur la création, des concepts, d'inventer. Je voulais vraiment créer quelque chose et j'avais peur qu'en faisant un bac littéraire, je me ferme certaines portes à un moment donné de ma vie où je n'étais pas encore sûre de mes choix.
Surtout qu'à la maison, on ne lisait pas.
Non, à la maison, on ne lisait pas. Mon papa lit, je pense maintenant, un ou deux livres par an et c'est les miens.
Oui.
Et ma maman lit... Elle lisait beaucoup de thrillers, de polars, maintenant quelques histoires un peu d'amour, mais c'est vrai que ce n'est pas des grands lecteurs. Ils lisent moins de 5 livres par an.
Donc, vous avez fait un bac éco avec l'envie aussi de devenir peut-être journaliste, décoratrice d'intérieur.
Oui, c'est vrai.
Vous ne saviez pas.
Non, moi, voilà, je voulais vraiment inventer, créer, et j'avais surtout peur en fait, d'avoir été bonne à l'école, mais d'avoir aucun talent de création. Et donc, ça me fait, chacun de ces métiers-là, que ce soit styliste, ou que ce soit décoratrice, ou écrivain, ou journaliste, je me disais, mais t'es qui pour pouvoir prétendre de savoir faire un dessin? T'es qui pour pouvoir prétendre écrire des articles quand tu lis même pas le journal tous les jours? Et donc à chaque fois, je me mettais un peu toute seule des barrières et j'ai voulu suivre un parcours plutôt très classique.
Oui, vous êtes rentrée chez L'Oréal, chez Procter & Gamble.
Oui, oui, effectivement. Donc j'ai fait une prépa école de commerce plutôt économique, ensuite une école de commerce. Et ensuite, mon premier travail a été... j'ai commencé un apprentissage chez IBM pendant 2 ans, donc pour payer mes études. Ensuite, j'ai fait un stage chez L'Oréal, effectivement. Ensuite, j'ai travaillé chez Procter & Gamble en Suisse parce qu'il n'y avait pas tellement de métiers disponibles en France. Donc, déchirement et éloignement avec la famille. Et puis après, voilà, j'ai trouvé un autre travail sur Paris et ensuite en Italie.
Oui, mais justement, Procter & Gamble, on ne le sait pas. Au départ, ça a été créé au 19e siècle par un fabricant de bougies, oui. William Procter. Et James Gamble était fabricant de savon. Ils se sont mis ensemble et ça a donné quelque chose d'immense à la fin.
Exactement, une multinationale énorme dont nous avons les produits chez nous sans trop le savoir et qui m'a donné mes premières armes du monde du travail et j'y ai passé 6 ans de ma vie pleinement occupée.
Oui, parce que vous avez découvert le marketing et ça vous a aidé d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, Aurélie Valogne.
En fait, je pense que j'ai toujours cherché une voie la plus créatrice possible, la plus créative possible. Et pour moi, le marketing s'en rapprochait. Il se trouve que j'ai surtout fait du marketing, ce qu'on appelle opérationnel, où il s'agit d'analyser des parts de marché, donc c'est écrire des rapports, beaucoup de chiffres. Et ce qui, moi, m'intéressait pas tellement, j'étais pas mauvaise, mais mon cœur n'allait pas naturellement vers ce domaine-là. Et donc, assez rapidement, quand j'ai pu bifurquer sur des créations de produits, d'innovation, là, ça m'intéressait beaucoup plus.
Mais en même temps, c'est aussi le formateur. Mais en même temps, on se retrouve dans un univers qui est quand même assez, assez fermé.
C'est très fermé. Moi, j'ai des souvenirs où on me disait, voilà, le format à refaire, c'est celui-ci. Tu mets les chiffres à jour et c'est tout. Sauf que moi, je suis incapable de suivre une ligne exactement tel qu'on le veut. Moi, il faut toujours que je réinvente. Donc, j'ai eu du mal à trouver ma place. Donc, je crois que j'ai toujours eu du bon sens. C'est pour ça que ce métier-là m'allait bien et me correspondait. J'ai une partie rationnelle de mon cerveau qui est assez développée, autant que la partie plus imaginative, je dirais. Mais j'avais besoin d'un emploi où je puisse utiliser à fond mes capacités et mes envies. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que je commençais à m'appauvrir sur la partie création.
Non seulement ça, mais c'est un travail éprouvant. On risque le burn-out, Aurélie Valogne.
On le risque et on le touche du doigt très amplement. Je pense que j'en ai fait 2 dans ma carrière. Une fois à Paris, où effectivement, je revenais d'un baby blues, mon premier enfant. Le retour au travail n'a pas été simple. Et il se trouve que, comme dans toutes les entreprises aujourd'hui, certains postes deviennent de plus en plus gros. Et donc, mon poste, pendant mon absence, avait grossi et donc est regroupé 3 responsabilités en une. Donc, je passais mon temps à voyager, à changer de casquette, à aller en réunion. Et on essaye de donner le meilleur de soi-même, de se pousser. Et puis, on ne dort plus la nuit, on ne mange plus, on sent qu'on pète un câble, en fait. Et donc, oui, par 2 fois, j'ai vraiment pété. Ma santé a été à risque, vraiment. Et j'ai senti que c'était c'était le moment d'arrêter. Et donc, la première fois, j'ai eu la chance de pouvoir démissionner pour suivre mon mari en Italie. Et là, ça a été un moment important dans ma vie.
Oui, et justement, on va parler dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio avec Aurélie Valogne.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Aurélie Valogne. La cerise sur le gâteau, c'est un roman qui sort cette semaine chez Mazarine, on en parlera plus tard. La cerise sur le gâteau sont des dates que je vous soumets aujourd'hui. Et le 16 juillet 2014 est important pour vous, Aurélie Valogne.
Oui, tout à fait. C'est même émouvant. C'est la naissance de mon premier roman.
Mais chez les orties.
Oui, mais dans les orties.
Ouais. Et donc, un roman que vous pensiez au départ vendre à une centaine d'exemplaires.
Que j'espérais, j'espérais secrètement essayer d'en vendre 100 exemplaires. En fait, voilà, on a expliqué tout à l'heure que j'avais eu un parcours très classique en entreprise. J'avais oublié mon rêve de petite fille qui était d'écrire un roman. Et puis, il se trouve qu'à ce moment de ma vie, suite à un baby blues, un burn-out, je déménage en Italie. Et là, je me retrouve à avoir devant moi l'occasion et le temps pour reprendre un vieux rêve qui, de nouveau, s'impose. Et je me dis, voilà, il faut absolument que j'écrive mon roman. Ça me vient comme une évidence. Et donc, pendant 6 mois, les premiers 6 mois où j'arrive en Italie, tous les matins, j'écris ce roman, mais dans les orties, sans le dire à personne, sans le dire à mon mari, sans le dire à ma famille, ni mon père, ni ma mère, à personne, pas même à mes amis. Et quand je sens que je vais abandonner, que je suis en train de tout détricoter en me disant c'est pas bon, il faudrait vraiment tout rechanger. Et puis en même temps, je me dis mais si, je trouve que c'est quand même pas mal. Je mets un point final et là, je demande à mon mari et à ma meilleure amie de me lire. Ils me lisent, me disent ah, c'est super. Et là, je me dis ce sont de vrais menteurs. Je ne peux pas leur faire confiance. Ils ont intérêt à me dire que c'est bien. Et donc, je cherche comment trouver des lecteurs qui auront un avis objectif, qui ne m'épargneront pas, qui diront pour de vrai ce qu'ils en pensent. Et là, je trouve par hasard qu'il existe l'auto-édition. Donc voilà, on prend son document Word sur lequel on a écrit son roman, on le met sur un site et tout seul, ce document se transforme en livre. Et c'est ce que j'ai fait. Et le 16 juillet 2014, j'ai transformé mon document en roman. J'ai appuyé sur le bouton publier et la machine s'est lancée.
Oui, alors il faut savoir que vous avez tout fait, y compris la couverture Vichy. Dans les moindres détails, vous avez tout prévu. Et heureusement que vous parlez anglais, car pour passer sur Amazon, c'est pas simple.
Bah, effectivement, en 2014, il me semble que leur site qui s'appelle Kindle Direct Publishing était complètement en anglais. Donc moi, j'avais eu la chance de travailler précédemment dans des univers complètement anglophones. Donc je savais très bien me débrouiller. Mais c'était quand même pas évident et facile d'accès. Et puis effectivement, quand on veut s'auto-éditer, ça semble assez intuitif. Mais il faut quand même trouver un titre. Donc j'ai mis le titre que j'ai pu trouver comme ça, mais dans les orties. D'écrire le descriptif, donc la quatrième de couverture du livre, et puis surtout inventer une couverture. Et là, moi qui suis vraiment nulle, même si j'avais voulu faire des études de styliste ou autre, j'avais pas tellement d'idées. Et comme le roman parlait de mon grand-père, moi ce qui me venait en tête, c'était vraiment l'attachement que j'avais avec lui, les repas qu'on faisait le mercredi à déjeuner, et avec la nappe Vichy. Et donc je voulais absolument mettre ce fond Vichy, et donc j'ai bidouillé sur mon ordinateur une couverture pas très jolie, mais qui, moi, me tenait à cœur et qu'ensuite, j'ai réutilisé et gardé.
Voilà. Et il y a quelqu'un aussi qui a compté beaucoup dans votre vie. À cette époque-là, on va entendre sa voix.
J'ai commencé à ne plus être aussi malheureux dès que j'ai commencé à écrire des histoires. Je mettais en scène les images qu'il y avait dans ma tête et c'était des images compliquées, notamment beaucoup
c'est
de...
C'est Bernard Werber.
Des sauts spatiaux.
Et quand je dis qu'il a... Vous l'avez rencontré ou non ?
Oui, je l'ai rencontré depuis. Alors effectivement, donc moi j'ai commencé à écrire, j'étais en Italie. Donc en Italie, je ne parlais pas italien, je ne connaissais personne, je n'avais pas d'amis, pas de famille. Et j'avais ce rêve fou de vouloir écrire une histoire. Et donc comme je ne savais absolument pas comment faire et que j'ai toujours été très scolaire, j'ai cherché sur internet comment écrire un roman et j'ai eu la chance de tomber sur une vidéo sur YouTube qui est donc éditée par Bernard Werber qui s'appelle Atelier d'écriture dans laquelle il donne 10 conseils pratiques très très simples pour se lancer dans l'écriture. Et donc voilà, je les ai notés dans mon petit carnet rouge de l'époque. C'est vraiment les premières pages sur lesquelles j'ai commencé à noircir ce carnet. Et je note, voilà, d'écrire, pourquoi voulez-vous écrire, ne pas oublier de faire un méchant très méchant. Donc il donne des conseils très pratiques qui m'ont, moi, beaucoup aidé. Et donc depuis, Bernard Werber, je l'ai rencontré dans la vie, je l'ai remercié. Et on s'est croisés, je pense, 4-5 fois avec grand plaisir. C'est quelqu'un d'important pour moi.
Oui, il est venu 2 fois dans les clés d'une vie. Oui. C'est quelqu'un qui a en plus beaucoup de choses à dire. Et on ne parle pas assez de lui, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. naturel.
Alors, il faut savoir aussi que son premier roman, il l'a écrit sur une puce, il avait 8 ans. Et son premier roman, Les fourmis, qui était un best-seller, il l'a écrit 18 fois avec 18 versions différentes.
Oui, ça ne m'étonne pas. Souvent, on a toutes les pièces du puzzle, mais on ne sait pas exactement comment les assembler. Et je pense qu'il a fini par trouver la recette magique.
Et vous, votre métier de romancière était tellement évident que lorsque vous êtes inscrit à l'Institut français à Milan, qu'est-ce que vous avez marqué sur, comme profession ?
J'ai marqué écrivain, alors qu'à l'époque, je n'avais jamais écrit une ligne. Je ne savais même pas que j'allais accomplir mon rêve. Mais c'est vrai qu'en arrivant en Italie, on me demande ma profession. Je viens de démissionner. Je n'ai pas forcément l'instinct de dire mère au foyer. Et je mens. Je la regarde dans les yeux. Je dis, je suis écrivain. Et à partir du moment où je l'ai dit, je me suis dit que je ne pouvais plus reculer. Et ça m'a donné vraiment un coup de pied au derrière pour commencer l'écriture.
Et en plus, maman, dans les orties, vous n'avez pas été chercher le modèle très loin, puisque votre grand-père, c'est votre grand-père.
Oui.
Et votre l'héroïne, c'est vous.
Tout à fait. En fait, souvent, on a l'impression que dans mes histoires, sur mes 5 romans, je parle de personnes qui sont très éloignées de moi. Il y a régulièrement des personnes âgées. En fait, dans chacun des personnages, il y a beaucoup de moi. Et il se trouve que j'ai voulu écrire cette première histoire pour parler d'une injustice. Le fait de laisser les personnes âgées un peu toutes seules aujourd'hui. Mon grand-père, j'ai la chance de l'avoir encore à mes côtés aujourd'hui. Mais c'est vrai que la solitude des personnes âgées, c'est un thème qui est pour moi très important. Et je me rendais compte qu'il est vivant, mais j'ai pas la chance de le voir autant que j'aimerais. Et j'aimerais surtout le retrouver à faire des blagues moqueurs comme il était quand il était plus jeune avec moi. Et donc j'ai essayé de le faire changer, de l'ouvrir sur le monde, au moins par un roman. Et par le roman, j'y arrive. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué.
Oui, en même temps, le roman est très astucieux. C'est-à-dire qu'il retrouve le sourire grâce à une petite fille qui lui présente sa mamie.
Oui.
Faut y penser à cette histoire-là.
Oui, alors en plus, je pense que la démarche de la petite Juliette, la petite fille, n'est pas forcément tout de suite de lui présenter sa mamie. Pour moi, l'histoire, c'est vraiment un vieux monsieur qui a décidé de fermer sa porte et de se couper du monde entier. Il n'y a que son chien qui compte pour lui. Et le jour où son chien disparaît et que cette petite fille emménage dans l'immeuble, elle décide de s'inviter tous les midis chez lui. Et en s'invitant, elle va apporter un vent de fraîcheur et il va se rendre compte que finalement, il y a peut-être encore des belles choses dans le monde qui vaillent la peine d'être vécues.
Oui, alors en plus, ce roman, donc, vous le publiez sur ce site.
Oui.
Et l'engouement est immédiat, à votre grande surprise, Aurélie Valogne.
Effectivement, tout à l'heure, on disait j'espérais avoir le retour de lecteurs, d'une centaine de lecteurs, et l'engouement est immédiat. En moins d'un mois, je rentre dans le top 20 d'Amazon, et en 6 semaines, je suis numéro 1, et je vais y rester 6 mois. Donc les lecteurs, tout de suite, ont accroché à l'histoire, tout de suite, ont trouvé qu'ils s'y reconnaissaient, ils ont été émus, ils ont rigolé, ce qui n'est parfois pas forcément le cas en littérature, et ça s'est emballé, mais le bouche à oreille m'a porté. Et au point où après, les maisons d'édition ont commencé à s'intéresser à moi.
Oui, mais vous avez été très strict sur ce que vous vouliez et ce que vous refusiez.
Oui, j'ai toujours des idées assez arrêtées sur ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai pas envie de faire. Et effectivement, le jour où une maison d'édition m'a approchée, moi, je savais très bien... Enfin, il y en a deux qui sont venues vers moi. Et il y en a une où, concrètement, il fallait que je retravaille tout mon texte. Et moi, pour moi, c'était hors de question. J'étais maintenant rassurée que mon texte avait une valeur avec plus de 150 commentaires de lecteurs. Et je voulais absolument tenir mon titre, ma couverture et le contenu. Et je suis partie avec l'éditeur qui a pris le pari de faire marcher aussi ce roman en librairie.
Mais c'est risqué et c'est rare de voir un auteur qui dit je veux que ce soit comme ça et pas autrement, Aurélie Valogne.
C'est risqué, mais je crois que sur le moment, on ne se rend pas forcément compte que c'est risqué. On se dit, on est tellement droit dans ses bottes, on veut absolument quelque chose. C'est quand même les maisons d'édition qui sont venues me chercher à un moment donné. Donc c'est aussi à moi de dire, ce bébé, ce qui est le mien, je ne le vendrai pas avec deux bras cassés. Et je vais le protéger jusqu'au bout. Et je pense avoir au moins été fidèle à ce que je voulais pour ce roman-là.
Oui, je pense que les maisons d'édition qui ont voulu tout changer doivent le regretter aujourd'hui.
Je ne sais pas s'ils le regrettent, je les aperçois régulièrement. Mais effectivement, pareil, j'avais envoyé des lettres à quelques maisons d'édition, j'ai reçu les lettres de refus pour ce manuscrit dont personne ne voulait. Donc voilà, aujourd'hui je suis assez fière de me dire, on peut recevoir des lettres de refus, mais ça ne veut pas dire que c'est un non définitif.
Oui, résultat, 1 million d'exemplaires en France, plusieurs pays, et la version livre de poche best-seller de 2016.
Oui, tout à fait.
On fait pire. On se retrouve dans quelques instants avec une autre date, le 5 mai 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Aurélie Valogne.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Aurélie Valogne, avec des dates qui correspondent à des moments forts de votre jeune carrière de romancière. 5 mai 2017, vous vous souvenez, non ? C'est Livre Hebdo qui publie un article qui vous sacre papesse de la littérature.
Oui, alors c'est vrai que j'aurais pas retenu la date exactement. C'est assez incroyable quand on sait que mes romans plaisent aux lecteurs et d'un seul coup d'avoir un papier qui officialise l'amour des lecteurs qui jusqu'à présent était passé complètement sous le radar de la presse ou du milieu.
Cet article vous a touché quand vous l'avez lu, Aurélie Valogne ?
J'ai été touchée. Après, moi, j'ai toujours du mal à y croire. Je me dis, c'est un effet de mode et peut-être qu'ils ne pensent pas complètement ce qu'ils écrivent. Et en fait, j'essaye pas forcément de moi-même de me dire que c'est vrai. Mais en tout cas, je l'entends dans la bouche des lecteurs et pour moi, c'est ce qui a le plus d'importance.
Alors, pendant ces trois années, effectivement, ces trois premières années, il s'est passé beaucoup de choses. Le premier roman a bien marché.
Oui.
Vous avez donc dit, il faut continuer.
Tout à fait. Et c'est vrai que je pense souvent, je rencontre des gens qui ont écrit un premier roman qui a plus ou moins marché et qui essayent d'écrire un second et ils sont tétanisés. Et ils me disent, mais je comprends pas, j'ai déjà écrit un premier, pourquoi je n'y arrive pas ? De mon expérience, ce que je leur dis, le plus dur à écrire, c'est le deuxième. Parce que le deuxième, on se met une pression. Le premier, on l'a fait un peu sur... c'est comme une recette du clafoutis ou quelque chose qu'on aurait à la base raté et faudrait le refaire. Sauf que là, le premier roman n'était pas raté et on se dit, mais mince, je ne sais absolument pas quelle était la recette pour arriver à ça. Et à côté, j'avais repris un travail où de nouveau, je faisais des journées très, 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 très longues, de 9h du matin jusqu'à 20h30. Donc ce deuxième roman, il a fallu que je trouve le petit créneau, donc 15 jours de vacances au mois d'août, pour l'écrire, donner tout mon cœur. Et en même temps, on se dit, mais c'est pas possible que ça plaise autant. C'est par hasard que le premier a autant séduit les lecteurs. Et en fait, le deuxième, finalement, j'ai eu de la chance, mais les lecteurs m'ont suivi aussi. Mais on doute énormément. J'ai failli pas le rendre, le deuxième roman.
À ce point-là. Mais c'est comme au théâtre, on dit toujours que la deuxième représentation est la plus dure.
Je ne savais pas, mais pour moi, c'est une évidence.
Mais alors, cette idée, c'est vraiment l'histoire de votre belle famille, votre intégration, Aurélie Valogne.
Oui. Alors, en plus, c'est vrai que je l'ai écrit au mois d'août et je passe toujours la première quinzaine d'août en famille, dans ma belle famille. Donc, ça m'avait beaucoup inspirée. Et en fait, j'ai voulu raconter aussi mon histoire où j'ai la chance d'avoir une famille, un peu la famille formidable, qui est ma famille d'adoption de mes beaux-parents, ma famille de mon cœur et maternelle, paternelle, et aussi ma famille, bien évidemment, très, très chère. Dans mes valeurs. Mais c'est vrai que cette nouvelle famille d'adoption est sur le papier accueillante et parfaite. Et moi, j'avais quand même du mal à trouver ma place. Et j'avais l'impression que c'était juste moi qui ne faisais pas les bons efforts. Et en fait, donc, j'ai voulu prendre avec beaucoup d'humour et dérision l'intégration de trois belles filles dans une famille où toutes mes tares, je les ai réparties sur trois belles filles. Et effectivement, on rigole avec elles, on se moque gentiment du beau-père, de la belle-mère. Et puis, c'est plutôt optimiste en disant que chaque famille a ses défauts, mais si on se respecte les uns les autres, on devrait s'en sortir.
Oui, et en fait, effectivement, vous touchez un sujet qui touche tout le monde, car je suis sûr que plein de vos lecteurs et lectrices se retrouvent devant ce fait.
Oui, et puis surtout aussi, même les très très jeunes. Moi, je sais que ce roman-là en particulier, mais aussi, mais dans les orties, ils ont été lus dans les collèges. Donc à 10, 11, 12, 13 ans, et ils sont morts de rire. Et ils me remercient en disant, mais je ne pensais pas en fait que la littérature pouvait me donner autant de plaisir et que j'aimais ça.
Alors ce roman au départ s'appelle Nos adorables belles-filles et quand il sort en poche, il est rebaptisé en voiture Simone.
Oui, alors ça c'est pas fait exprès. En fait moi quand je travaille, j'ai toujours un titre provisoire sur mon document et donc pour ce roman-là, ça s'appelait donc Nos adorables belles-filles. Et au moment où je l'envoie à mon éditeur, je lui dis c'est la période où je doute, où je pense que je fais une grosse bêtise de l'envoyer et il est complètement séduit par le texte et je lui dis par contre, moi j'aimerais vraiment changer le titre parce que c'est pas aussi fort que Mémé dans les orties. J'aimerais qu'on se mette ensemble et qu'on réfléchisse à un titre très fort. Et à ce moment-là, la réponse est « Ah ben en fait, c'est pas possible, on l'a déjà présenté aux libraires, aux commerciaux, à tout le monde, il est dans les systèmes comme ça, on ne peut plus changer. » Et donc là, je suis juste tétanisée parce que je ne suis pas contente de ce titre. Je n'ai même pas réfléchi un instant à ce titre-là. Et donc en fait, c'est trop tard. Et un an plus tard, quand il sort en livre de poche, c'est la directrice du livre de poche, Véronique Cardi, qui vient me voir et qui me dit « Tu n'étais pas très contente de ton titre. » Alors là, je recommence à refaire une grimace en disant « Non, je n'étais pas du tout contente. » En plus, le troisième roman s'appelle « Minute papillon ». Donc expression, pas expression, expression. Et elle me dit « Parce qu'en fait, nous, quand un roman n'a pas très bien marché en grand format, on peut s'autoriser à changer le titre. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et effectivement, il n'était pas très bien vendu sous le le nom de nos adorables belles-filles. On l'a rebaptisé en voiture Simone, qui est une des expressions du roman. Et effectivement, il a cartonné, il a fait l'été dans le top 10 et ça a propulsé, je dirais, la suite des événements. Donc c'était un bon changement de titre.
Oui, alors en voiture Simone, on pense qu'on le doit à Guy Lux lorsqu'il appelait Simone Garnier dans Interville, en voiture Simone. En fait, c'est pas du tout ça. Je sais pas si vous le savez, c'est Simone Desforêts, qui était une pilote automobile, l'une des premières femmes à avoir un permis de conduire en 1929, qui a fait des courses automobiles. Et quand on la voyait, on disait « En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne ».
Eh ben, je ne connaissais pas toute l'histoire.
C'est l'origine.
Mais par contre, c'est vrai que les lecteurs m'ont dit en dédicace, la suite, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Ouais. Donc de temps en temps, en dédicace, je leur mets.
Voilà. Et c'est l'origine exacte. Alors, comment est venue cette idée de mettre des expressions populaires dans vos livres, Aurélie Valland?
Alors, c'est vraiment un accident. En fait, donc, tout a commencé par le premier roman, Mémé dans les orties. Dans le contenu du roman, il y a souvent des dialogues entre ce vieux monsieur Ferdinand et la petite fille Juliette. Et moi, en pensant à mon grand-père, en faisant parler ce personnage, à chacune de ses phrases, il y a des expressions que seul lui utilise et que plus personne autour de nous n'utilise. Et donc, tout le roman est truffé de ces petites perles, ces expressions que j'adore. Et donc, quand j'ai cherché à nommer mes chapitres, j'ai fait remonter ces expressions-là en titre de chapitre. Et après, quand j'ai cherché à trouver un titre pour mon roman, j'ai été piochée dans mes titres de chapitre. Et donc, c'est par hasard que toutes mes histoires maintenant portent une expression populaire.
Oui, car ça n'a pas changé, vous avez gardé l'idée. Et alors, ces premiers romans ont été écrits sur une banquette très dure dans un café de Milan.
Oui, même une banquette en bois, je dois avouer. Ce qui fait que le style du livre, je pense, est aussi très rapide. Parce que quand on a un peu mal aux fesses, on va plus vite. Et oui, donc j'ai commencé à écrire dans le café qui s'appelle Antico Café à Milan, près de là où j'habitais. Et voilà, donc je dirais que j'ai une certaine nostalgie à repasser devant aujourd'hui, me dire que je ne savais absolument pas tout ce qui allait se passer après. Tous les jours, comme une petite fourmi, je travaillais chaque matin. Et au final, aujourd'hui, je suis devant vous et je raconte ce parcours. Mais oui, c'est assez émouvant de voir ce petit café qui était juste là pour mon petit cappuccino du matin. Et je travaillais. Et oui, puis depuis, moi, j'aime travailler dans les cafés. J'ai toujours gardé ça. J'ai besoin d'avoir l'idée d'aller au bureau, de sortir de la maison. De toute façon, à la maison, avant, je n'avais pas une pièce non plus pour moi. Donc, avec les enfants, c'était quand même compliqué. Et voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée, voilà, je me pose et je dois, entre guillemets, rentabiliser. Alors, un cappuccino, ça ne coûte rien du tout, mais je suis venue ici, il faut que je sois le plus efficace possible. Et chaque journée, j'écris en moyenne 10 à 20 pages.
Dans le café, on dit que c'est elle, on vous reconnaît, on sait que vous écrivez.
Non. C'est l'avantage d'être auteur. Déjà, les 4 premiers romans, j'étais en Italie, donc là, j'étais tranquille de chez tranquille. Et maintenant, dans ma ville, oui, les gens m'ont repéré, mais en fait, ils me laissent vraiment tranquille. Et de temps en temps, on me dit « Ah, j'ai l'impression que je vous connais, vous êtes déjà venu ». Donc, ils ont une sensation de familiarité avec moi qui, moi, me convient tout à fait. Mais parfois, ne me remettent pas forcément comme étant la fille dont ils ont lu les cinq romans.
Oui, et on écrit très bien dans les cafés, puisqu'un jour, dans un café de Saint-Germain-des-Prés, Guy Béard s'installe, commande un verre, et il a écrit « Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés ».
Mais oui, mais c'est là où on attrape la vraie vie. Souvent, on me demande comment ça se fait que dans vos romans, ça sonne si juste. En fait, il suffit de sortir de chez soi, de s'arrêter un instant, d'écouter, moi, j'espionne les gens sur les tables d'à côté.
Et il y a un autre lieu où vous avez écrit d'autres romans, c'est la pâtisserie des rêves, dans une cour du XVIIe siècle à Milan, l'annexe de la pâtisserie des rêves de Paris.
Exactement. En fait, il se trouve que moi, je suis très gourmande, hein. Ça, voilà, c'est un fait. Et donc, je cherchais un endroit un peu plus confortable que mon banc en bois pour écrire mon troisième et mon quatrième roman, parce que j'étais enceinte à ce moment-là, et que ça commençait à être un peu lourd. Et en face de chez moi, mais on aurait voulu le faire exprès, ils ont ouvert la seule pâtisserie française à Milan, qui était vraiment, je traversais la rue, et je m'y suis installée pour deux de mes romans. Et j'ai été accueillie comme une petite reine. Ils me faisaient goûter toutes les spécialités en avance. Ah, le croque-monsieur, vous en pensez quoi? Et la soupe vichyssoise, et le tiramisu, pas le tiramisu, la tarte tatin. Donc voilà, j'étais vraiment comme à la maison.
Voilà. La pâtisserie des rêves, aujourd'hui, c'est une enseigne internationale. C'est Philippe Conticini qui était au départ à la table d'Anvers chez Petrosian, qui a révolutionné la pâtisserie, parce qu'on ne le sait pas assez, mais aujourd'hui on a des verrines dans toutes les boutiques, et c'est lui le premier à avoir eu l'idée de présenter des desserts dans une verrine.
D'accord.
Et il a également aussi inventé un Paris-Brest, que vous connaissez sans doute,
ah oui,
avec de l'air qui est très très léger.
Mais c'était la première fois que je suis rentrée dans cette pâtisserie, c'était pour goûter le Paris-Brest.
Voilà, en Italie c'est paradoxal.
Oui.
Et puis il y a une chanson qui évoque un autre de vos romans.
Jolie fleur de pan, jolie fleur de papillon. Un éditeur me papa, ma frite à millions.
Voilà. J'ai pensé à cette chanson de Annie Cordy, vous connaissez peut-être, de Jean Constantin, parce que le papillon, c'est devenu mini de papillon. un autre roman où c'est l'histoire des mères de famille qui se sacrifient sans qu'on les remercie. Aurélie Valoye.
Oui, parce que en devenant maman, ce troisième roman, je l'ai écrit, j'étais enceinte, et puis après, mon petit Gaspard était né. J'ai vraiment ressenti tout l'amour d'une mère, que ma mère notamment avait eu envers moi et mon frère, ou quand on était malade, elle se levait la nuit, qui est toujours là pour nous. Et qui n'attend jamais aucune médaille. Et souvent, on voit à la télé des hommes qui reçoivent la médaille du mérite pour un travail, etc. Et ces mères au foyer, parfois, n'ont aucune médaille et ont à peine les merci de leurs propres enfants. Et je me suis rendu compte que moi, qui avais été une ado assez difficile, parce que je cherchais l'autonomie dès le plus jeune âge, je n'avais pas assez dit merci et pas assez dit pardon. Et donc, par ce roman, j'ai voulu rattraper le temps perdu.
Et une nuit de papillon, ça vient de papillonner, un papillon qui passe d'une fleur à l'autre. On aimerait qu'il s'arrête une minute, justement.
Exactement.
Et alors, vos lecteurs, justement, dans les séances de dédicaces, qui sont nombreuses, vous parlent, vous demandent des conseils, vous racontent leur vie. Vous avez vraiment créé un petit club de familial.
C'est vrai que j'ai la chance, quand ils parlent de moi, souvent ils me disent « vous êtes l'écrivain de la famille ». Tout le monde vous lit à la maison, le grand-père, la mère, le mari, la fille, le fils. Donc toute la famille a son petit roman d'Aurélie Valogne. Et c'est vrai, quand ils viennent me voir, déjà souvent ils me disent « mais c'est la première fois que je viens voir un auteur ». D'habitude, je viens ni en salon, ni demander une dédicace. Mais on a l'impression de vous connaître et on a envie de vous rencontrer et de vous dire merci. Et alors moi, souvent, je termine en pleurs parce que c'est des mouvements très, très émouvants où ils me racontent des blessures personnelles et ils me racontent la rencontre avec le livre et à quel point ça a pu changer leur vie. Il y a eu un avant et un après parce que ça arrivait au bon moment pour eux. Et ces rencontres-là me nourrissent de manière extraordinaire. Se poursuivent aussi parce qu'ils m'envoient des emails. Donc tous les jours, je me réveille et j'ai bien une vingtaine d'emails de gens qui ont terminé mes livres pendant la nuit et me disent « Ah mais j'ai pas pu aller me coucher après, je voulais tellement vous remercier ». Et finalement, j'avais très peur de ça, moi, en laissant mon ancien travail, d'être coupée du monde, d'être un auteur, c'est quelqu'un qui vit tout seul, la solitude me pèse. Et en fait, je me rends compte que je suis portée et je suis jamais seule.
Oui, et en même temps, vous évoquez des sujets parfois très graves, mais toujours avec humour et optimisme, Aurélie Valoye.
Oui, ça fait partie de ma personnalité, je suis optimiste, même sur des sujets un peu plus lourds, comme par exemple, on en parlera peut-être, mais sur l'écologie aujourd'hui.
Mais on va en parler.
Mais effectivement, moi, je suis optimiste. Je ne peux pas croire qu'il faille baisser les bras et se dire tout est foutu et on n'a plus qu'à en finir avec la vie. Non, je pense sincèrement que la nature humaine est bien faite et que si on se fait confiance et si on se donne un peu de courage, on pourra tous gravir nos propres montagnes et nos propres difficultés. Et oui, j'ai dans la vie beaucoup d'humour, donc j'essaye de... On a tous des tuiles qui nous tombent dessus. Si on arrive à le voir par le côté le plus lumineux et en sourire presque, ça peut déjà aider.
En tout cas, ce qui aide, c'est votre nouveau roman, dont on va parler dans quelques instants, La cerise sur le gâteau, à travers une autre date, le 6 mars 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Aurélie Valogne.
Mais demain c'est loin pour moi. J'avais pas d'idée de métier, non rien. Et je n'en voulais pas. Sautait le chanteur à payer. Yo, yo, yo. Et tout le monde a crié. Yo, yo, yo. Si c'est une vie de chanter. Yo, yo, yo. C'est décidé, je ferai. Yo, yo, yo. Je chanterai.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Aurélie Valogne, 6 mars 2019, le cinquième roman déjà, La cerise sur le gâteau chez Mazarine, encore une expression populaire et encore une nouvelle idée très différente des précédentes.
Oui, c'est vrai que sur le papier, on ne m'attend pas sur un thème. Le premier thème, c'est la retraite.
Oui.
Donc moi, j'ai 36 ans, donc on peut se dire que la retraite, un, elle n'arrivera pas parce que écrivain, on peut écrire jusqu'à la fin de sa vie.
Oui.
Et puis deux, je suis encore jeune, donc j'ai le temps de voir venir. Mais j'ai aussi changé de vie à titre personnel. J'ai passé les 5 dernières années en Italie à travailler énormément pour un grand groupe américain et avoir un rythme de vie effréné. Je suis maman de 2 enfants, je faisais tout le temps des voyages pour mon travail. J'avais les livres qui commençaient à très bien marcher. Et d'un seul coup, quand l'entreprise de mon mari nous propose de partir au Japon ou en Chine pour continuer l'aventure, son aventure personnelle, là on se regarde et on se dit mais en fait c'est aujourd'hui qu'on va reprendre notre destin en main. Et lui décide de démissionner et on se réinstalle en France, en Bretagne.
Pourquoi la Bretagne ?
Parce que la famille.
Oui.
On a la famille en Bretagne et que voilà, on avait beau habiter Milan à 1 heure d'avion, on s'est vraiment rendu compte qu'une heure d'avion, ça fait toute la différence et qu'on ne fait pas l'effort de voir la famille autant qu'on aimerait. On ne faisait plus les poulets le dimanche, on ne faisait plus les petites balades impromptues le long de la plage. Donc là, on a vraiment décidé de se rapprocher de la famille. Et donc en optant pour ce virage quand même drastique, mon mari et moi qui avions des agendas plus que chargés, on a eu un peu l'impression nous aussi d'approcher un changement aussi fort que celui de la retraite, où il faut tout réinventer. On ne peut plus seulement se définir par son travail, je suis directeur, etc., mais qui je suis au fond et qu'est-ce qui m'identifie et qu'est-ce que je vais aussi laisser derrière moi. Et je voulais absolument par ce roman parler aussi de la transmission des valeurs qu'on peut laisser, notamment à ses enfants et à ses petits-enfants. Et le héros de ce roman, La cerise sur le gâteau, Bernard, se retrouve bien malgré lui à la retraite. Lui, il voulait vraiment continuer à travailler. Il se retrouve paumé, perdu, déprimé, donc il enquiquine un peu son entourage. Mais il va avoir la chance de nouer une relation très forte avec son petit-fils, lui qui n'avait pas vu grandir son fils. Et c'est son petit-fils qui va aussi lui apprendre la vie.
Alors, justement, il est à la retraite. Est-ce que vous êtes renseigné ? Parce qu'il y a une description des derniers jours de la retraite de Bernard qui est infiniment précise. Quand on rend son badge, son ordinateur, les clés de sa voiture de fonction. Moi, j'ai croisé un jour un PDG qui venait de rendre les clés de sa voiture de fonction. Il m'a dit, je ne sais même pas conduire dans Paris, je ne sais pas. Il était totalement perdu.
Oui. Alors en fait, effectivement, j'ai fait beaucoup de recherches. Il se trouve que mon papa n'est pas encore à la retraite, mais il m'a raconté justement un de ses collègues qui a été mis à la retraite du jour au lendemain. Et il me dit de le voir derrière le portique de sécurité et de voir que tout s'arrête ici pour lui. Il avait le visage défait, donc il m'en a parlé. Moi, je les ai vus aussi, les collaborateurs qui ont pu se faire virer du jour au lendemain, et tout s'arrête pour eux. Donc j'ai repris des choses que j'avais pu voir, des témoignages de mon papa ou de mon beau-père, pour nourrir ce personnage.
Et un personnage qui se retrouve à classer ses affaires, à apprendre à la cuisine. Enfin, c'est une vie difficile.
Mais il faut tout réapprendre, en fait. La retraite, d'un seul coup, on se rend compte qu'effectivement, toute sa vie, on a décidé. Toute sa vie, on a géré des choses très, très importantes. Et puis, d'un seul coup, on se rend compte que est-ce qu'on a vraiment décidé ? Est-ce qu'on a décidé pour soi ce qui était important pour nous ? Prendre des décisions sur notre vie, quelque chose dont on serait très fier. Et en fait, lui, il a suivi le mouvement, il a travaillé plus de 35 ans dans la même entreprise, mais au fond, il ne s'est jamais posé la question de est-ce que l'entreprise lui correspondait ? Est-ce qu'il a laissé le monde dans un meilleur état ou pas qu'en arrivant ? Et aujourd'hui, finalement, par la retraite, il va pouvoir commencer à se poser les premières questions de son existence.
Oui, il découvre la peur de mourir plutôt que celle de vieillir.
Exactement, exactement.
Ce qui n'a rien à voir.
ce qui n'a strictement rien à voir. Mais c'est vrai que lui, très vite, il associe la retraite à une petite mort. Il se dit, mais attends, j'ai pas eu tout envie de me poser dans mon fauteuil avec des pantoufles. Je suis encore tout à fait valide. J'ai le cerveau qui fonctionne. J'ai un carnet d'adresses. J'ai des compétences. Les petits jeunes, ils savent pas tout ce que je sais. Pourquoi je devrais aller sur le banc de touche? Je n'ai pas envie de m'arrêter. Et on peut tout à fait comprendre. Ça nous rappelle aussi un Michel Drucker qui n'a pas envie de s'arrêter.
Qui est dans le livre, d'ailleurs, qui est cité, voilà.
Et qui est cité dans le livre, exactement. Donc, voilà. Il a tout à fait raison, mais la société est faite de telle manière qu'on lui dit merci, on le remercie. Et comme il dit, il ne savait pas que c'était ça, se faire remercier. Donc il se prend une petite claque et il doit réapprendre à devenir le centre de son propre monde et à prendre des décisions voilà, sur comment occuper tout ce temps qui finalement est une chance pour vraiment se dire voilà, ce n'est pas seulement mourir, c'est au contraire réapprendre à vivre.
Et effectivement, c'est un sujet universel. Moi, j'ai vu des tas de gens partir à la retraite, heureux de partir, en disant je vais lire mes livres, voir mes films.
Exactement.
2 ans plus tard, ils sont morts.
Ah mince, oui, non.
Non, c'est vrai. C'est-à-dire que rupture d'anévrisme, c'est vrai que la retraite, quand on n'a pas préparé sa retraite, ce n'est pas une solution.
Oui, puis après, il y en a qui l'attendent toute leur vie. Bernard, lui, ne l'attendait pas. Mon papa, il l'attend et il a hâte. Mais il y en a effectivement qui se disent « je ne veux surtout pas aller à la retraite ».
D'ailleurs, il a changé de vie et je crois que votre héros, au départ, se prenait pour un sosie de Georges Clooney.
Oui, parce qu'il avait les cheveux un peu poivre et sel, donc il pensait qu'il ressemblait beaucoup à Georges Clooney. Et ce qui était intéressant, c'était de le faire évoluer et en passant le cap de la retraite. Bah, ses cheveux deviennent aussi un peu plus blancs et d'un seul coup il dit bah non, je ressemble plus du tout à Georges Clooney, mais sa femme qui le regarde quand même avec les yeux de l'amour lui dit non mais tu ressembles à Sean Connery, ce qui lui va très bien parce que James Bond c'est quand même pas mal.
Oui, mais Georges Clooney il a une carrière incroyable et un jour il a invité ses copains, 14 copains qui étaient sa bande, et chacun avait une valise où il y avait $1 million.
Oula.
Et il a dit voilà, vous m'avez tous aidé quand j'étais rien, maintenant voilà mes remerciements, ils ont tous donné cet argent à une œuvre.
Ah super.
C'est quand même une belle opération. Alors, ce cherchant du travail, Bernard va plonger dans l'écologie, un domaine qui vous touche, Aurélie Valoye.
Oui, en fait, je me suis dit, maintenant qu'il a du temps pour lui, ce personnage, Bernard, qu'est-ce qu'il va faire? Et je me suis dit, bah voilà, il va s'occuper de son jardin. Il va prendre le temps de faire pousser ses légumes. Et puis, par contre, j'aimerais bien qu'il ait un voisin un peu casse-pied qui soit juste son opposé. Donc le voisin, lui, il en a un peu rien à faire du jardin de Bernard, et donc il met des pesticides partout, il coupe des arbres, il lui demande d'ailleurs de couper son bouleau, qui est le seul bel arbre que Bernard a dans son jardin. Et donc j'avais envie que ce personnage, ce protagoniste, évolue. Et donc il commence par juste être un jardinier passionné, puis très vite il se rend compte que, ben, en fait, en lisant les journaux, la planète va vraiment droit dans le mur si on ne change pas très rapidement. Et cette prise de conscience écologique, il l'a un matin... auprès de son petit-fils Paul, qui lui demande de l'aider pour un exposé à faire pour l'école, et qui se trouve être le continent de plastique.
Le septième continent.
Bernard ne sait pas du tout ce que c'est. En plus, la maîtresse, elle est casse-pieds, on n'a pas le droit d'utiliser Internet. Donc lui, il ne sait pas du tout ce que c'est. Et c'est son petit-fils qui l'initie à regarder le monde de manière différente, à ramasser les déchets. Et lui se dit, maintenant que j'ai tout ce temps devant moi, eh ben, je vais faire en sorte d'initier aussi ma famille et de leur faire prendre le bon pas. Parce que ce que je veux laisser derrière moi, ce n'est pas des déchets, mais c'est des vraies valeurs.
Oui, même à Noël, on mange dans des petites assiettes plutôt que dans des grandes.
Exactement, parce qu'il se rend compte que le troisième plus grand fléau de l'humanité, c'est le gaspillage alimentaire. Donc il dit, plutôt que de faire des grandes assiettes, on va prendre des petites assiettes, et on pourra tous se resservir. Pour Noël, lui qui déteste cette période de l'année, qui pousse à la consommation, finalement, il décide d'utiliser ce moment un peu particulier pour équiper toute la famille en brosse à dents en bambou, en mouchoirs en tissu. Limite, il aurait pu acheter des protections périodiques pour sa belle-fille, mais je crois que sa femme lui dit que ça suffit, il dépasse un peu les bornes. Sa petite fille, Charlotte, il lui offre une gourde, donc elle le regarde avec des grands yeux en disant « mais je me suis comportée pendant un an comme une première de la classe très très sage pour avoir une gourde à Noël », elle ne comprend pas du tout. Et en fait, on se rend compte qu'il dépasse de plus en plus les bornes, le zéro plastique ne lui suffit plus, il veut aller toujours plus loin, il va notamment essayer d'aller sur, même faire zéro impact écologique, donc c'est-à-dire impact négatif, donc il va prendre son vélo plutôt que sa voiture, quitte à risquer sa vie, et il va se poser des questions, mais jusqu'où je vais? Est-ce que tout ça a du sens vraiment? Mais en fait, il a besoin d'être cohérent par rapport aux valeurs qu'il pense être les bonnes, et ce qu'il veut montrer comme modèle pour ses petits-enfants.
Alors, vous créez un sujet d'actualité, mais en le poussant à l'extrême de façon cocasse, Aurélie Valoye.
Oui, parce qu'en fait, ce roman, je me suis mis une pression énorme parce que j'ai eu une révélation, un choc. En fait, moi, j'ai toujours mangé bio depuis que j'ai des enfants, mais parce que je ne voulais pas attraper un cancer. Jamais parce que c'était une manière durable de protéger nos environnements. J'ai eu le déclic il n'y a même pas 6 mois, enfin maintenant c'est peut-être plus que 6 mois, c'était en juillet dernier. Et donc je me suis dit, mais il y a encore plein de gens qui ont des journées comme j'avais auparavant, qui passent leur temps à courir, qui n'ont pas le temps de lire les journaux comme moi, j'ai le temps, et qui ne se rendent pas compte de l'urgence. Et j'avais envie, sous couvert de faire un roman léger, drôle, qui parle de changement de vie, d'introduire cette notion écologique et d'émouvoir et de faire rire sur l'écologie. Et c'était le plus gros défi qui m'attendait sur ce roman.
Oui, et vous avez même poussé l'écologie jusqu'à un petit peu être dur avec vos éditrices quand elles ont jeté un mégot un jour.
Oui. Il y en a une qui est juste derrière moi. Et non, effectivement, parce que d'un seul coup, on commence à se rendre compte de plein de petits gestes du quotidien qui n'ont strictement aucun sens. Et donc, d'aller jeter ses papiers par terre ou ses mégots de cigarettes dans le caniveau, tout finit dans la mer. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de se baigner et dans la mer auprès des déchets des autres? Non. Donc, voilà, on a des poubelles différenciées qui servent à quelque chose. Et savoir bien les utiliser, c'est juste le début.
Oui, remarquez, avec les mégots, on peut faire un tabac. Vous faites, vous n'avez pas besoin de ça. Vous faites un tabac avec ce livre qui s'est vendu en quelques semaines déjà à beaucoup, beaucoup d'exemplaires. Le principe est resté le même. Chaque tête de chapitre, c'est une expression populaire.
Oui, forcément, on ne change pas quelque chose qui fonctionne pour moi et qui, moi, surtout me touche. J'ai envie que chaque chapitre donne envie d'être lu. Donc, je réutilise une expression vieillotte qu'on a pu oublier et qui correspond au ton du chapitre. Et même moi, ça me motive à l'écrire.
Oui, et l'expression populaire, bon, la cerise sur le gâteau, c'est l'élément final qui parachève le tout. Mais j'ai quand même trouvé dans vos titres de chapitre une expression qui, au départ, n'était pas populaire et qui est devenue grâce à une chanson.
Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut...
L'histoire remonte à 1932. L'orchestre de Ray Ventura vient d'être créé et Paul Misraki, le compositeur, dîne un soir chez une dame à Nîmes qui lui raconte ses malheurs. Et dans la nuit, il a l'idée de cette chanson qu'il appelle « Tout va très bien, madame la marquise », chose qui n'existait pas avant et c'est devenu un succès mondial.
Mais dans ma famille, on la chantait souvent, cette chanson. Donc pour moi, c'est presque une expression populaire.
Voilà. Et effectivement, il a compris, Paul Misraki, que c'était une chanson à succès quand un jour, en voiture à côté de lui, il a vu un cycliste dans la rue chanter « Tout va très bien, madame la marquise ». C'est une expression qui existe. Alors, ce livre, vous l'avez supervisé comme tous les autres ?
Supervisé, vous...
Dans chaque détail, chaque chose.
Effectivement, moi j'ai toujours à peu près une idée très nette du titre, de la couverture, même la quatrième de couverture, donc la description du roman. Je sais exactement ce que j'ai envie de raconter aux lecteurs, comment j'ai envie d'éveiller leur curiosité. Et donc, c'est vrai que déjà, dès le mois de mars l'année dernière, j'avais en tête cette couverture rouge avec ces petites fleurs de cerisier et ce titre.
Et c'est du travail, puisque je crois que pendant les 4 premiers mois avant d'écrire, vous notez des tas de choses,
Aurélie Valery. Oui, en fait, un roman a besoin de maturer. Donc là, en ce moment, j'ai fini d'écrire donc le 5e qui est déjà sorti. Mais je suis déjà en train de travailler le 6e et le 7e, parce que je suis une éponge, je suis ouverte sur le monde, je note plein de petits détails, ce que vous allez me dire, ce que je vais voir dehors. Et donc là, je suis vraiment en train de travailler très activement sur le 6e roman. Et je suis dans cette phase que j'adore, c'est la phase des carnets où je note mes idées, je note des fins potentielles, je fais des fiches personnages. Voilà, mon héros, il a tel âge, ses caractéristiques, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Je pars vraiment toujours de mes personnages. C'est eux qui me nourrissent et après, je crée une intrigue qui permet de les faire évoluer et de faire en sorte que le lecteur s'attache à eux.
Oui, et le lecteur est attaché et rêverait de les voir à l'écran. Mais ça, vous êtes très dur là-dessus, très clair. Il n'y aura pas d'adaptation tant que vous ne serez pas d'accord sur la production et sur le fait que vous puissiez intervenir, Aurélie Valery.
Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai aussi très envie de les voir au cinéma, mes personnages, parce que ça serait encore un... C'est même pas un rêve, parce que j'avais jamais eu ce rêve-là, mais ça serait extraordinaire. Là, la cerise sur le gâteau, je peux même le dire. Mais j'ai aussi peur d'être déçue. Et comme les lecteurs l'attendent aussi beaucoup, j'aurais peur qu'ils soient déçus eux aussi. Donc en fait, j'ai toujours demandé à être intégrée à la relecture du scénario, à suivre les étapes clés. Et parfois, il y a certains producteurs qui ont plutôt envie de prendre le titre et puis de retirer la moitié des chapitres, changer les prénoms. Ouais. Et moi, je ne suis pas prête à tout accepter depuis depuis toujours. Donc si on adapte un des romans, je veux absolument que les lecteurs ne soient pas déçus.
Et ils ne seront pas déçus, car je sais que vous veillerez au grain.
Exactement.
Ce roman s'appelle La cerise sur le gâteau. En même temps, je signale qu'Au petit bonheur, la chance est sorti en poche, au livre de poche. Et puis, il va continuer à écrire des romans de ce genre, au moins pendant 70 à 80 ans. C'est votre but.
Merci beaucoup, oui.
La cerise sur le gâteau, c'est chez Mazarine, un livre à ne pas manquer. Merci, Aurélie Valogne.
Merci à vous.
Vous serez toujours les bienvenus dans Les Clés d'une vie et sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye. Et nous, on va se retrouver, comme d'habitude, demain à 13h pour d'autres Clés d'une vie. Merci encore. Bonne journée. À demain.